Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Et pour débuter cette émission, nous accueillons Julien au 39-21. Bonsoir Julien.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous Julien et quel âge avez-vous ?
J'ai 39 ans et je vous appelle de Saint-Herblain. C'est une commune en banlieue nantaise.
D'accord. Qu'est-ce qui vous amène Julien ? Dites-moi.
Ce soir, au travers de mon témoignage, j'aimerais qu'on rende un peu plus visibles les professionnels victimes des pesticides et puis mon association qui leur vient en aide, qui s'appelle Phytovictime.
D'accord. Alors, pourquoi ce combat aujourd'hui ? Pourquoi que vous est-il arrivé ?
On fait un premier flashback en fin 2015, début 2016. Je suis fatigué, je tousse beaucoup, j'ai du mal à respirer. Je dors assis, parce que dormir couché sur le dos, ça m'est impossible. J'ai des suées nocturnes. Quand on parle de suées nocturnes, c'est comme si vous sortiez de la douche. Vous êtes trempé, le lit est trempé. Et je passe des longs mois comme ça, à rien faire finalement. M'auto-médicalisé, un petit sirop pour la toux. Et puis, je vais chez mon médecin traitant pour une simple grippe intestinale, et au moment de m'ausculter, elle me dit allongez-vous sur la table, et je lui dis ça va pas être possible, parce que sinon je peux plus respirer. Donc là, elle me dit attendez, c'est pas normal. Elle m'ausculte, et puis elle me dit tout de suite là, il va falloir aller faire une radio. Oui. En urgence. Et c'est comme ça que je mets le doigt dans l'engrenage, parce que la radio, très vite, je suis pris très très vite. On me dit il y a quelque chose, faut retourner voir mon médecin traitant. Et puis là, elle me prend rendez-vous chez un spécialiste, le docteur Sado Le Bouvier. Elle me dit le nom du spécialiste, mais sur le moment, je ne l'entends pas. Oui. Elle me dit c'est très urgent, faut y aller dès demain. Je vous ai pris rendez-vous dès le lendemain. Et donc, je rentre à la maison, et puis pour préparer un peu le rendez-vous, je cherche un petit peu c'est quoi la spécialité de ce docteur Sado Le Bouvier. Elle est hématologue. Alors, je me dis, c'est bizarre, parce que hématologue. Et moi, je ne savais même pas ce que ça veut. Je savais même pas ce que c'était à l'époque. Et je me dis, je cherche et puis je trouve que c'est spécialiste des maladies du sang, du cancer. Elle est en oncologie. Je me dis où est-ce que je mets les pieds, c'est quand même bizarre. Moi j'ai juste une toux. Je commence un peu à m'inquiéter à ce moment-là. J'ai Sandrine, mon épouse, qui est enceinte de 8 mois à l'époque, et au moment de partir au rendez-vous, vous savez, le gimmick de l'homme qui se coupe avec une enveloppe et qui saigne, et on en fait toute une histoire, et là, elle me dit, avant de partir, oh, ça va, t'as pas un cancer non plus. Et je lui dis, 8 mois de grossesse, t'as pas besoin de m'accompagner à l'hôpital. Sa maman était là, elle va m'emmener, et puis le rendez-vous, je vais le faire tout seul, je sais pas trop ce qui m'attend là-bas. Et en fait, si arrivé là-bas, le docteur Sado Le Bouvier me dit, Monsieur Guillard, avec la radio, ça demande des examens complémentaires, mais la radio plus des examens sanguins, vous avez un cancer du sang, un lymphome non-Hodgkinien. Voilà.
Oh là là.
Et donc elle me dit, malgré tout, vous êtes en bonne santé, vous êtes jeune, j'avais 32 ans, bientôt 33, et le traitement sera douloureux, mais normalement, vous n'allez pas mourir. Donc, je me dis, d'accord, c'est parti. C'est un peu plus qu'une claque. Hein. Là, on perd un peu pied. Je me dis, qu'est-ce qui va se passer ? Je pense à Sandrine, aux enfants.
Oui.
Et puis très vite, elle est. Quand on nous annonce qu'on a un cancer et qu'il faut se battre contre cette maladie, on ne va pas ramasser des fraises. Hein. C'est brutal, peut-être, la façon de le dire, mais c'est une façon aussi de rentrer dans le combat, quoi, et puis d'aller au charbon contre la maladie. Mais tout de suite, elle me dit, Monsieur Guillard, par contre, le LNH, c'est une maladie, à votre âge, elle va bien se guérir, logiquement, ça devrait bien se passer, ça va être difficile, mais ça devrait bien se passer. Par contre, c'est plutôt une maladie du vieillissement. Voilà, ça arrive plutôt vers 60, 70, 80, mais 30 ans, c'est pas vieux et c'est pas normal. Donc, deuxième petit flashback, elle me dit, que faites-vous dans la vie ? À l'époque, je suis chauffeur poids lourd. Elle me dit, ouais, bon, pourquoi pas, mais qu'est-ce que vous avez fait avant ? Et j'ai dit, moi, j'ai fait des études agricoles. J'ai fait un BEP, polyculture élevage, en alternance, puis un bac pro, toujours en alternance. Puis après, j'ai été ouvrier environ 10 ans. Et elle me dit, vous avez utilisé des produits phytosanitaires, des pesticides ? J'ai dit oui, c'est vrai. Et en fait, l'agriculture, c'est plus qu'un métier, c'est un peu une passion. Même si oui. Je l'avais quitté, J'avais toujours gardé cette d'aller chercher des infos, de me tenir informé des nouvelles technologies, et puis aussi des documentaires. J'avais vu des documentaires sur ces agriculteurs qui tombaient malades à cause des produits phytosanitaires. Et quand moi j'avais vu ces documentaires, je m'étais dit, oh là là, j'ai de la chance, quoi. Parce qu'en fait, finalement, moi, je les ai utilisés, et des fois, pas vraiment correctement, et je suis pas malade, donc j'ai eu de la chance. Et donc, ce 4 février 2016, dans le bureau du docteur Sado Le Bouvier, ma chance a tourné. C'est ce que j'ai dit. Là, je crois que ma chance a tourné. Et tout de suite, elle me dit, il faut faire une demande de reconnaissance en maladie professionnelle. Bon, voilà, vous venez d'apprendre que vous avez un cancer, que ça va être, ça va pas être sympa dans les prochaines semaines et les prochains mois qui vont venir, que donc un dossier administratif pour une pseudo-reconnaissance. En plus, elle me dit tout de suite que vous n'allez pas être reconnu, mais il ne faut pas le faire pour vous, il faut le faire pour les autres. Bon, c'était pas mon idée n'était pas tout de suite de faire des papiers. Mais elle avait planté cette petite graine, en fait, et en cela, je la remercie, parce que une fois que j'étais rentré un peu dans le quotidien de la chimio, toutes les deux semaines, avec les prises de sang, les TEP scans, tous ceux qui sont passés par là me connaissent, mon médecin traitant revient à la charge. Il me dit, Monsieur Guillard, elle me dit comme ça, un peu sur la pointe des pieds, avec votre passé agricole, ça serait bien quand même que vous fassiez une reconnaissance en maladie professionnelle, parce que le LNH, c'est quand même une maladie qui est en lien avec l'utilisation des pesticides, et puis vous ne serez pas reconnu, mais faites-le pour les autres. Bon, j'ai hésité, puis elle m'a dit, bon, on ne va pas tergiverser, je vous fais le CMI, donc ça c'est le certificat médical initial, c'est le papier que le médecin doit faire pour lancer la procédure, l'enquête, et pour la reconnaissance en maladie professionnelle. Donc elle me tend le papier, et finalement je le prends, et puis je l'envoie. Et puis démarre l'enquête. Parce que voilà, on n'est pas reconnu en maladie professionnelle en claquant des doigts, et ça a une enquête. Donc je retourne sur mes anciens collègues de travail, je leur demande de témoigner, de me dire ce qu'ils en pensaient, etc. Et c'est là aussi que je prends conscience des pratiques qu'on avait à l'époque. Mes collègues me disent, mais c'est vrai, mais c'était dingue. Enfin, tu te rends compte de ce qu'on faisait? Je peux donner un exemple ou deux, mais dans mes derniers boulots, j'étais paysagiste, et on avait un pulvérisateur à dos, pour traiter en herbicide. Alors un herbicide non sélectif qui coûte pas cher dans le paysage, je peux pas être sûr à 100%, mais pour moi c'est du glyphosate, l'herbicide de Monsanto, enfin cette molécule d'herbicide. Et en fait il fuit en fait tous ceux que vous interrogerez si un jour vous avez d'autres victimes de pesticides qui vous appellent, ils vous diront s'ils ont utilisé un pulvérisateur à dos, ils fuient tous, en fait. C'est comme ça, c'est oui. Bizarre, mais on a tous cette...
Ouais,
on a
pourquoi tous cette... Pourquoi fuient-ils tous?
Parce que c'est du matériel qui est pas
qui
entretenu.
Qui s'use vite.
Parce que, qui s'use, et puis, vous savez, c'est un bidon qu'on porte sur le dos.
Oui.
Et le bouchon, s'il est mal fermé, il est un peu poreux, ça y est, c'est fini, hein, vous avez le dos trempé. Et en plus, alors ça, c'était à Strasbourg... pour ceux qui connaissent, en Strasbourg, il fait quand même chaud, hein. On ne croirait pas, mais comme ça, l'hiver, il fait froid, et l'été, il fait chaud, plus chaud qu'ici à Nantes. Et moi, j'étais super content de faire ce boulot, parce que j'avais le dos trempé, en fait, j'étais au frais, je me disais, mais moi, j'aime bien faire ça, en fait, je suis au frais tout le temps, et en fait, ah oui, mais j'étais au frais de mon t-shirt trempé de bouillie, en fait, trempé de produits à longueur de journée. Et en ça, moi, je ne m'en rendais pas compte. Enfin, je ne voyais pas le danger. Je ne m'imaginais pas que je mettais ma santé en danger. Mais mes collègues non plus. C'est que vraiment, au moment de l'enquête, qu'on s'est dit, mais on n'avait pas de gants, on n'avait pas de masque, on n'avait pas de protection. On faisait ça comme ça et c'était naturel. Donc, je fais donc cette enquête, hein, aussi dans l'agriculture pure. Parce que dans l'agriculture pure, je faisais par exemple des semences. On enrobait des semences avec des produits pour les protéger. Ça c'est pareil, on faisait comme ça, sans masque, parce que on m'avait appris comme ça. Moi je suis pas en plus issu du milieu agricole, donc j'ai été vraiment formé à l'école d'agriculture, et à l'époque en tout cas on mettait pas vraiment l'accent sur la sensibilisation et l'information du risque chimique, donc j'ai fait ça très naturellement. L'enquête se passe, diverses recours, etc. Je fais ça tout seul avec Internet, hein, et puis Légifrance, hein, voilà, je me débrouille. Et le 19 avril 2017, j'obtiens la reconnaissance en maladie professionnelle. Donc là, c'est un soulagement, c'est une reconnaissance, c'est peut-être pas grand-chose comme ça, mais ça soulage, on se dit, mais voilà, on est visible. On est visible. Nous, victimes du travail, parce que c'est au travail. Quand on va au travail, on ne doit pas. Ça paraît un peu aujourd'hui comme ça désuet, mais quand on va au travail, on n'y va pas ni pour mourir, ni pour être malade. Voilà, donc c'était cette reconnaissance, c'est important en tout cas pour les victimes. Et si je peux parler en leur nom, c'est ça. C'est important cette reconnaissance. Rien que pour ça, c'est important. Cette reconnaissance sociale, là, elle est vraiment importante pour nous. Et puis, bon, ok, cool, je suis reconnu en maladie professionnelle, mais qu'est-ce que j'en fais? Et là, je me pose pas mal de questions, je me dis, il y a une chose que je veux absolument faire, c'est retourner dans les lycées agricoles, non pas pour leur dire de ne pas utiliser des pesticides ou faire autrement, etc., ça c'est pas mon job, je suis pas agronome, mais leur dire que quand vous en utilisez, bah, faites attention, voilà, ça va faire rire, mais quand on utilise des produits, bah, c'est pas du jus d'orange, quoi. Voilà, on utilise des produits qui sont dangereux pour la santé, qui peuvent avoir des conséquences terribles sur votre santé, et de leur dire, vous savez, alors aujourd'hui, ça tombe par hasard, mais aujourd'hui, j'étais dans un lycée agricole à Rouillon, à côté du Mans, faire justement cette sensibilisation à deux classes, donc environ 50 élèves, et c'est ce que je leur dis, quand vous sautez du tracteur, vous sautez par terre, vous faites mal au dos, c'est instantané. Ça y est, vous avez sauté, la conséquence, elle est directe, vous avez mal au dos. Quand vous utilisez un produit phytosanitaire, quand vous l'utilisez mal, quand vous ne vous protégez pas, c'est pas tout de suite que vous allez avoir le problème. C'est dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Et c'est pas un mal de dos, hein. C'est un cancer, c'est Parkinson.
Ouais. C'est terrible, terrible.
Mais oui, ouais, c'est des choses qui sont compliquées à comprendre quand on a 15 ans, 16 ans, même 17 ans. On est invincible. On se dit, bon, on risque rien et on pense pas à tout ça, et heureusement d'ailleurs, mais quand on utilise ces produits, enfin, en tout cas, là, je pense que... Et donc, moi, c'est ce que je voulais faire. Et j'ai réussi parce que il y avait ça, et qu'est-ce que je fais aussi? Est-ce que je peux faire autre chose comme démarche juridique derrière la reconnaissance? Donc là, j'ai simplement été sur Internet, j'ai tapé association pesticides victimes, et puis je suis tombé sur l'association Phytovictime. C'est une association qui... à l'époque, faisait son AG à Rennes, donc je suis allé là-bas, et puis j'ai rencontré d'autres victimes. J'ai rencontré le président, Paul François, cet agriculteur charentais qui a fait condamner Monsanto. Il y avait le cabinet d'avocats, le grand cabinet d'avocats TTLA, François Laforgue, il y avait Pierre Pézra, l'auteur du film Les Sentinelles. Enfin, ça a été l'AG qui, je me suis dit, non mais là il faut que je m'engage dans cette association là et puis ça tombait bien parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un de bras pour aller faire justement des interventions au milieu scolaire. Donc bah, je me suis engagé en 2017 comme simple bénévole, et puis aujourd'hui je suis vice-président de l'association. Je me suis fait un petit peu embrigadé, mais voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et aujourd'hui, bah, je suis en attente de mon dernier procès, finalement. J'ai mis un peu de temps à me résoudre à le mener, parce que c'est une faute inexcusable à l'employeur. C'est-à-dire que vous mettez en accusation votre employeur de ne pas vous avoir protégé. Et ça a été difficile pour moi, parce que quand j'ai fait mon enquête, je me suis aperçu que bah, eux-mêmes avaient été touchés.
Bah, bien sûr. Si vous avez été touché, il y a de grandes chances qu'eux le soient. En fait.
Et eux l'ont bien été. Donc c'est difficile aussi de les accabler plus, en fait. Et puis souvent, c'est ce que je dis au grand public, c'est que je connais pas d'agriculteurs qui veulent mettre en danger, qui mettent sciemment en danger leurs propres enfants, parce que bien souvent c'est familial, hein, on travaille tous en famille, leurs employés, etc. Sciemment, ils le mettent en danger devant le tracteur lorsqu'ils traitent ou ne souhaitent pas les protéger. Non, c'est un gros manque d'information, de sensibilisation, peut-être aussi beaucoup de déni de leur part, mais c'est pas sciemment qu'ils le font, donc ça m'a gêné. Mais dans mon discours, quand je rencontre des victimes, je leur dis, il faut absolument que vous fassiez cette démarche, parce que il y a que comme ça que ça marche. Si on reste invisible, il y aura jamais rien qui bougera. Et puis, aujourd'hui, c'est nous, demain, ça sera nos enfants, et donc il faut bien qu'il y en ait qui fassent ces démarches-là juridiques pour faire avancer la cause. Et c'est difficile de le demander aux autres si on ne se l'applique pas soi-même. Donc en 2018 ou 2019, je ne me souviens plus précisément, mais j'ai entamé ces démarches-là quand même pour faute inexcusable. Donc le procès a eu lieu au mois de mars, et le délibéré, c'est demain à 14h.
Ah, c'est demain, carrément.
Ouais, c'est demain à 14h. Donc je sais pas si je vais beaucoup dormir, c'est pour ça que c'était pas gênant.
Et vous attendez à quoi, là, de votre point de vue?
Oh bah moi je suis quelqu'un de positif, donc moi je pense, enfin en plus je le fais avec mes tripes, je mens pas, je viens pas là pour cette démarche, je la fais vraiment en pure honnêteté, donc pour moi il y a même pas de jugement autre possible, c'est que voilà, c'est bien sûr qu'il y a une faute. En plus lors des débats, les avocats l'ont à moitié avoué. Enfin, je peux vous citer un avocat de la partie adverse qui a dit, c'est faux, Monsieur Guillard avait des EPI. La preuve, il a eu des bottes et un ciré.
Oui,
Donc
oui.
en fait, un botte et un ciré, c'est pas des équipements EPI, c'est équipement de protection individuelle. Donc pour tout ce qui est l'épandage de produits phytosanitaires, ça va être le masque, les gants, le tablier, les lunettes, enfin la visière, etc. C'est très spécifique. Et jamais des bottes et un ciré, ça protège des produits phytosanitaires, ça se saurait. Donc j'ai même l'impression qu'ils sont même conscients que il faut bien qu'ils se défendent aussi. C'est vrai que ça a été difficile ce procès parce qu'on entend des choses comme qu'on ment, comme mais je me dis comment je ferais à leur place? Est-ce que je me défendrais comme ça aussi peut-être? J'en sais rien. Ils sont peut-être un peu obligés.
Ils sont, oui, de toute façon, de toute façon. Mais au-delà de ça, en fait, vous m'avez dit que vous entamiez un combat aujourd'hui, donc vous sentez que ça peut faire vraiment avancer les choses, que le monde agricole n'est pas encore vraiment au courant de tous ces dangers?
Vous savez, je prends rien qu'exemple aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai 39 ans, donc ça fait à peu près allez, un peu plus de 25 ans que j'ai quitté les bancs agricoles, et les pratiques qu'on avait à l'époque, je les ai retrouvées encore aujourd'hui. Alors peut-être pas dans les mêmes proportions, mais pour les non-agricoles, en fait, il y a une pratique qui s'appelle le jalonnage, c'est-à-dire marquer les passages de tracteurs. C'est technique, mais vous êtes dans le champ et vous comptez les nombres de pas, enfin les nombres de mètres à chaque passage du tracteur.
Oui.
Et généralement, ça, maintenant, ça se fait soit par GPS, ou soit on le fait avant, on ne reste pas dans le champ quand on le fait. Et moi, c'était ma pratique. Je restais dans le champ à tenir un jalon en l'air pour que le conducteur de tracteur me vise, et je devais courir pour éviter les embruns du traitement. Aujourd'hui, on se dit c'est pas possible, c'est que ça continue. Si, encore aujourd'hui, j'ai demandé, je le demande à chaque classe et quasiment à chaque fois, à chaque session, j'ai un élève qui me dit nous, on fait encore.
Oui, ça veut
Alors,
dire,
avant, peut-être, il y en avait 15, mais aujourd'hui, il y en a encore un. Et puis, quand les bus sont bouchés, on souffle dedans.
oui.
Voilà.
Ah, mais d'accord. Oh là là.
Non, on souffle pas dedans. On souffle pas dedans. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui t'empêche d'avoir trois bus neuves dans le tracteur? Tu souffles pas dedans. Elle est bouchée. Bon, ça peut arriver, elle est bouchée. Tu l'enlèves, tu la mets dans une poche et tu prends une neuve. Et puis, ah ouais, c'est vrai, on pourrait faire ça. Ah oui. Mais c'est encore il y a encore des choses comme ça où. Que le monde agricole, enfin, là on parle beaucoup du monde agricole, mais les pesticides, malheureusement, ça touche pas que le monde agricole. Mais que le monde agricole utilise des produits phytosanitaires, c'est une chose, mais qu'ils gardent les mêmes techniques et qu'ils gardent les mêmes petites notions sur leur santé. Enfin, il y a des fois, je me dis, mais on a l'impression d'écoper avec une petite cuillère, quoi.
Oui,
Mais bon,
ouais,
c'est
c'est sûr.
essentiel. Enfin, en tout cas, je pense que
Parce que
c'est.
à part le travail qui est fait par ces associations de sensibilisation, est-ce que il y a une autre communication sur ces produits? Et est-ce qu'il y a eu une modification aussi de ces produits?
Oui, il y a eu des avancées. Bon, c'est marginal, mais enfin, c'est pas assez. C'est pas que c'est marginal, c'est que c'est jamais assez finalement. Mais maintenant, les utilisateurs de produits phytosanitaires doivent passer un permis qui s'appelle le certiphyto. Le certiphyto, voilà, c'est un permis. Si vous l'avez pas, vous pouvez pas acheter de produits, vous pouvez pas les utiliser. Sauf que en fait, c'est des chambres d'agriculture qui font passer ce permis. Et puis les jeunes élèves, ils les ont. Quand vous avez votre bac, vous avez forcément votre certiphyto. Donc, si l'instruction scolaire agricole n'est pas vraiment le doigt là-dessus, sur la sensibilisation comme nous le font certains lycées, bah, y a certains lycéens qui arrivent avec très peu de notions finalement de sensibilisation sur le risque chimique. Et puis bah, nous, on est une association, malgré qu'on soit maintenant une association un peu plus grosse, mais on ne peut pas être partout non plus. Quoi. Bon, je ne peux pas m'occuper de tous les lycées, et puis mes copains à l'assaut, c'est pareil, on ne peut pas être partout. Donc il faudrait ouais, plus de sensibilisation. Il y a des lycées qui font l'effort de le faire, hein, qui invitent bah, une association voilà, qui prend la défense des victimes des pesticides, mais ils invitent aussi bah, des groupes comme BASF pour leur parler de la protection, comme des marchands de matériaux, de matériel, je veux dire. Et voilà, ils font le nécessaire. Il y a vraiment des lycées qui mettent l'accent là-dessus, qui font des semaines certiphyto. Et donc, il y a divers intervenants qui viennent, la DRAF, la NSA, etc., leur expliquer les conséquences, etc. Mais il y a pas mal de lycées où ils font le minimum, quoi.
Oui. C'est fou. C'est fou. C'est fou ce que vous nous racontez, parce que, en fait, ça... J'ai l'impression que ça va avec le monde paysan dont on s'occupe peu, en fait, qu'on ouais. laisse un peu. Parce qu'on parle là de mort, hein, de vie et de mort
ouais.
ce soir.
Oui.
Et,
ouais.
Et ce qui est dingue, c'est que voilà, ça continue comme ça et qu'on voit que ce sont les associations qui. Pas des associations de victimes, hein, en fait, qui se battent. Et puis ailleurs, est-ce qu'il y a vraiment eu une action du gouvernement pour. Limiter les dangers sur ces produits.
Limiter les dangers sur les produits. Bah, oui. les produits sont autorisés, donc quelque part, c'est à l'État français hein, de pas autoriser des produits qui sont dangereux pour la santé. Le problème, c'est que les techniques pour les faire d'évaluation de ces risques, en fait, ils sont faits en laboratoire.
Oui.
Donc en fait, ils sont pas, il y a pas de corrélation avec les gens qui les utilisent sur le terrain. Il y a l'association là, dernièrement, on a ouvert une antenne à Fort-de-France. On prend cet exemple-là parce qu'il est marquant avec nos copains antillais, martiniquais et guadeloupéens. Et quand on est allé là-bas au mois de janvier pour la mettre en place, pour les aider. Avec le concours de l'État, hein, l'État nous a aidés sur le lancement, hein, donc il participe à ça. Mais quand on va là-bas, en fait, on s'aperçoit que les travailleurs dans les bananeraies, bah, en fait, imaginez-vous, il fait 25, il fait chaud tout le temps, porter un masque, c'est une combinaison, etc. C'est quasi impossible, en fait. Donc, en fait, les produits sont autorisés. On nous dit, vous, si vous utilisez ces produits avec les bons pays, vous êtes tranquille, vous n'allez pas avoir de problème. Ben oui, mais le problème, c'est que sur le terrain, ils sont inapplicables, ces recommandations. Parce qu'il fait chaud, parce que c'est pas possible de porter un masque comme ça, avec tant de chaleur, ça a tourné de l'œil. Et les ouvriers sur place nous disent, mais c'est quasi impossible de respecter ça. Et donc, forcément, on a affaire à des ouvriers, parce que ça reste que des ouvriers aussi, c'est peut-être du mépris de classe, je sais pas, mais bah, on s'en fiche un peu, quoi. Alors, ils sont un peu invisibilisés, bon... Là, l'État nous aide à les démarcher, à les accueillir, à les faire reconnaître. Donc, on ne va pas non plus se plaindre, mais on pourrait faire beaucoup mieux, ça c'est sûr. On pourrait faire beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux.
En tout cas, vous n'êtes pas... Est-ce que ces associations sont aidées par le gouvernement? Est-ce que vous avez des subventions qui font que... Bah, ce boulot, on sait qu'il est fait par vous. Donc, est-ce que vous êtes aidés, accompagnés?
Oui, ben, je vous dis par exemple, je vous dis en Martinique, c'est l'État qui nous aide en très grande majorité à mener le projet. Ils veulent absolument que les victimes martiniquaises, antillaises, au plus large sens du terme,
qui ont déjà ramassé. Hein, au passage,
ouais.
Il y a quand même cette histoire dont peut-être celles et ceux qui nous écoutent sont pour. Pour une partie d'entre vous qui écoutez, vous êtes peut-être au courant, mais il y a une grande partie, j'en suis sûr, qui n'est pas au courant de ce fameux pesticide que l'on a mis pour les bananes. Hein,
la chlordécone, oui.
Voilà, et qu'on a interdit en France, mais qu'on a continué à laisser aux Antilles et qui a fait de nombreux dégâts. D'où d'ailleurs, aujourd'hui, l'attitude des Françaises et des Français dans les dom-toms qui ont perdu complètement confiance dans le gouvernement qui les a empoisonnés hein, il y a une vingtaine
oui,
d'années.
Oui. Oui, oui. Et qui qui les a un peu laissés de côté parce que c'était loin, parce qu'au début, bah, il y avait des problèmes économiques et que la banane, ça, ça a été le poumon de la Martinique et de la Guadeloupe pendant, pendant des décennies. Oui. Mais oui, les a laissés un peu à l'abandon. Alors aujourd'hui, ils mettent le paquet parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix, en fait. Hein, parce qu'il y a une recrudescence de cancer de la prostate, parce qu'il y a des enfants qui sont touchés. On y pense aussi, enfin, je voudrais aussi mettre aussi l'accent sur les enfants parce que bon, les utilisateurs, on, même si c'est grave et que c'est pas normal, je veux dire, on a utilisé des produits phytosanitaires, c'est nous qui sommes touchés. Bon, mais quand c'est nos enfants? Parce que là, on en arrive maintenant, enfin, c'était déjà le cas avant, mais maintenant, on met la lumière là-dessus, c'est nos enfants qui sont touchés, les enfants d'utilisateurs. C'est-à-dire que la maman qui a utilisé des produits phytosanitaires pendant la gestation, son enfant naît avec des malformations, avec des troubles autistiques, avec des cancers pédiatriques, mais ça peut venir aussi du papa qui a utilisé des produits dans les 6 mois avant la conception et qu'il transmet à son enfant. Des fois, ça va même maintenant jusqu'à sauter des générations.
Oui, oui.
Hein, y a des molécules qu'on appelle CMR, hein, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. Ça, c'est des produits qui devraient être interdits déjà. On ne devrait même pas se poser la question.
Qui devraient être interdits. Mais ce qui est dingue dans ce que vous dites, Julien, ce soir, ce qui me paraît insensé, c'est que ces produits devraient être interdits et qu'on continue tranquillement. C'est scandaleux.
On
ne met pas la santé des agriculteurs au cœur de cette problématique-là. On s'en fout, en fait.
Ce qui compte, c'est le rendement.
Merci en tout cas pour votre témoignage ce soir, Julien. C'est toujours important de rappeler tout ça et de rappeler votre combat. Et c'est toujours une goutte en plus dans l'océan des explications, mais n'oublions pas nos agriculteurs. C'est moi qui vous remercie. C'est moi.
Oui, merci beaucoup. Merci, bonne soirée.
Et bonne soirée à vous, Julien. Au revoir.
Merci, au revoir.
La libre antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.